point de mire.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Michel Rieux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission Point de mire consacrée à l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD. Donc je rappelle que vous êtes conseiller scientifique auprès de cette agence, que vous êtes spécialisé dans ce domaine-là. Avec vous, dans cette seconde partie, nous allons pouvoir parler d'un sujet qui vous est cher, qui est la recherche. Nous allons voir avec vous que dans la recherche, il y a trois parties. Il y a la prévention. Nous allons parler longuement de la prévention, également les sanctions dissuasives et puis également les analyses. Effectivement, c'est ce qu'on pourrait nous avoir en tête dès le départ quand on parle de recherche, avec notamment le laboratoire antidopage. Nous allons voir qu'effectivement, c'est une partie à laquelle il faut s'intéresser, mais que la prévention et que les sanctions tiennent aussi un rôle important. Michel Rieux, qu'est-ce qui est motivant dans cette partie-là, la recherche ?
Ben, je crois d'abord que c'est une volonté naturelle de l'agence et c'est aussi une nécessité par rapport à la lutte contre le dopage. La recherche, en fin de compte, c'est le support d'une politique de prévention et donc de la protection de la santé des sportifs, bien évidemment, puisque dopage et protection de la santé des sportifs sont intimement liés. Et c'est aussi, bien sûr, le support de la détection. Dans ces deux domaines, prévention et détection, la recherche joue un rôle essentiel.
La prévention, il y a un public différent, ça va des enfants aux sportifs du dimanche, aux sportifs de haut niveau. Je suppose que vous adaptez votre discours. Qu'est-ce que vous leur dites, en fait, dans le domaine de la prévention ? Est-ce que vous vous déplacez dans les collèges ? Est-ce que vous allez voir ces sportifs de haut niveau en leur disant « attention, certains médicaments sont autorisés, d'autres pas » En quoi consiste la prévention ?
Oui, bien sûr. La prévention, c'est s'adresser aux plus jeunes. Je pense que l'action qui peut être menée dans les lycées, dans les collèges, est tout à fait essentielle. Et notamment au niveau des jeunes sportifs qui se sont engagés dans cette voie, soit d'une manière de loisir, soit d'une façon beaucoup plus concernée, parce qu'ils pensent pouvoir accéder à une carrière de sportif de haut niveau. De toute manière, la prévention, que ce soit chez le sportif de haut niveau, que ce soit chez l'adulte, qu'on va appeler amateur si vous voulez, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, puisque le sportif de haut niveau, maintenant il y a des amateurs, il y a des professionnels, ou chez le jeune, la prévention demande un savoir. Parce que vous savez, tous ces sportifs, du plus jeune au plus expérimenté, ont une notion qui est claire, c'est celle de la précision. Quand vous sautez en longueur, votre performance se calcule au centimètre près. Quand vous faites une course, votre course se mesure maintenant au dixième, voire au centième près. Vous ne pouvez pas, quand vous tenez un discours de prévention, contenter de faire des approximations, aussi bien en ce qui concerne les dangers du dopage, qu'en ce qui concerne les modes de dopage, et aussi en ce qui concerne l'épidémiologie du dopage. Parce que la typologie du dopage doit vous amener à adapter votre discours à la population à laquelle vous adressez. Or, actuellement, nous sommes totalement ignorants en la matière. Quand vous faites une étude épidémiologique, normalement, il s'instaure une espèce de confiance entre l'enquêté et l'enquêteur. Là, ce n'est pas le cas dans le domaine du dopage. Il y a même plutôt un non-dit, évidemment. Ce qui fait que nous avons beaucoup de mal à savoir quelle est l'étendue du fléau.
Alors pour vous parlez certains, du fléau du dopage, qui se dope, qui ne se dope pas.
Bien sûr. Alors pour certains, tout le monde se dope. Pour d'autres, non. Au moins dans ma discipline, personne ne se dope. C'est toujours la discipline du voisin, bien sûr. Et dans mon club, personne ne se dope. C'est le club du voisin qui se dope. Autrement dit, c'est extraordinairement complexe. D'autre part, le dopage n'est pas le même en fonction des disciplines, en fonction de l'âge. Et tout ceci, nous n'avons pas les éléments chiffrés, scientifiques, qui nous permettent d'avoir un tableau clair de la représentation du dopage. Alors ça, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on l'ait. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on parle des risques du dopage, notamment aux enfants, encore faut-il que l'on puisse très exactement donner des chiffres qui se rapportent effectivement au dopage. Je vous donne un exemple précis. Actuellement, nous avons lancé avec l'INSERM une étude sur la mort subite dans le sport. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'accidents qui se sont révélés dans les deux ou trois dernières années.
Comme Marco Pantani, par exemple.
Voilà, oui, qui ont ému le public. Oui, puis c'est un fouet, etc. Donc nous tenons un registre. Mais ce registre, il va peut-être nous amener, dans le meilleur des cas, à voir si, dans le monde du sport, il y a, en fonction des catégories d'âge et en fonction des disciplines sportives, un peu plus de morts subites que dans la population normale. Ce qui n'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais même si ceci est prouvé, eh bien, comment rattacher ces morts subites au phénomène du dopage ? Est-ce que c'est lié au sport ? Est-ce que c'est
avec
lié à une surcharge d'entraînement,
voilà.
Ou est-ce que c'est lié, effectivement, au dopage lui-même ? Ça peut être lié aux deux aussi. Donc oui, il y a là toute une démarche extrêmement complexe de type épidémiologique qui est à mener.
Mais ces chiffres-là, parce que là vous parlez de l'Agence française de lutte contre le dopage, peut-être qu'on dispose de ces chiffres-là en Allemagne ou aux États-Unis ou dans d'autres pays ?
Le problème des études épidémiologiques, c'est que les conditions ne sont pas forcément les mêmes entre les différents pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, directement utiliser une étude épidémiologique qui a été faite dans tel pays pour la transposer dans notre pays. Les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Mais d'un autre côté, il y a deux pays qui ont fait des études épidémiologiques. Il y a d'une part les États-Unis et d'autre part l'Italie. Alors l'Italie avec une grande étude rétrospective qui remonte à plus de 20 ans, qui est sur une durée de plus de 20 ans, en utilisant les dossiers d'un peu plus de 20 000 footballeurs. Vous voyez, c'est donc une étude épidémiologique très, très ciblée. Alors, leurs résultats sont extrêmement intéressants. Ceci dit, ils ne permettent absolument pas de savoir ce qui revient au dopage, ce qui revient au surentraînement. Et d'autre part, ils ont mis en évidence alors un aspect assez étonnant, c'est que la prévalence de la sclérose latérale amyotrophique est beaucoup plus élevée chez notamment tous les dossiers qu'ils ont pu étudier, donc les dossiers des footballeurs, que ce qui existe dans la population normale. La question reste entière, il n'y a bien sûr aucune réponse par rapport à ce phénomène. Mais ce sont encore des études épidémiologiques, vous voyez, parcellaires qui ne répondent pas à l'ensemble de ces problèmes. Cette étude ne prendra son plein envol que lorsqu'elle aura les mêmes conditions réglementaires que les études qui ont été menées sur la mort subite du nourrisson. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un décès sur un terrain de sport ou aux alentours des terrains de sport une heure après une activité physique, il doit y avoir une autopsie.
Et ça, actuellement, c'est déjà fait ?
Non. Il faut qu'il y ait une étude médico-légale qui soit faite et dans laquelle les quatre aspects seront analysés. Un aspect, évidemment, je dirais macroscopique, d'autopsie. Un aspect anatomopathologique. Un aspect toxicologique. Et un aspect génétique. De manière à essayer de couvrir l'ensemble des circonstances qui peuvent amener à une mort subite sur un terrain de sport, l'effort n'apparaissant à ce moment-là que comme un facteur aggravant, sensibilisant, sur un terrain déjà prédisposé.
Mais là, ça reste quand même des cas exceptionnels. Heureusement, tous les sportifs ne meurent pas après un entraînement.
Certes, mais moi je vous dirais, je ne peux pas vous dire actuellement si la mort subite a une fréquence, une prévalence plus importante chez le sportif que dans la population normale. Je n'ai pas la réponse. Puis alors, il y a un autre aspect aussi qui se rattache à ça, c'est quelle est, dans les causes du dopage, toujours dans le domaine de la prévention, quel est le rôle de la surcharge d'entraînement ? Parce que la surcharge d'entraînement amène au surmenage, mais le surmenage, lui, peut conduire au dopage, évidemment, de façon à masquer les effets du surmenage. Et si ces effets du surmenage sont masqués, on peut très bien déboucher sur un syndrome médical de surentraînement, qui là est beaucoup plus préoccupant que le phénomène du surmenage.
C'est un vieillissement prématuré ? Comment ça se traduit ?
Le syndrome médical de surentraînement est maintenant un syndrome qui est bien isolé, qui ressemble d'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas des liens d'ailleurs assez étroits, avec les syndromes de dépression. Un syndrome de surentraînement, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques mois, quelques années, ça peut interrompre la carrière sportive. Là aussi, ça fait partie de la prévention. Vous voyez, là encore, comme la protection de la santé et la lutte contre le dopage sont intimement liées. Et c'est vrai aussi que, en plus du syndrome de surentraînement, se pose aussi le problème de la surcompétition. C'est-à-dire les compétitions qui sont très rapprochées les unes des autres, et ce, notamment dans le sport professionnel, puisque le retour sur investissement que représente le sport professionnel de la part de ceux qui investissent, c'est quand même bien le rapport que peut ramener les spectacles de compétition, c'est le sport-spectacle.
Donc le surmenage, en l'occurrence, là, dont vous parlez, ça reste quand même dans le domaine du sportif de haut niveau qui va s'entraîner 7, 8 heures, 9 heures par jour.
Oui, mais ne croyez pas ça, parce que le surmenage, c'est aussi l'amateur, c'est voir pourquoi pas le vétéran. Chacun a son surmenage, chacun a son surentraînement et chacun a son dopage. Vous savez, il ne faut pas croire que seul le sportif de haut niveau est amené à se surmener et à se surentraîner. Vous allez me dire simplement, ce qui peut changer, c'est la charge d'entraînement pour laquelle vous arrivez à un surmenage. Elle ne sera pas la même, évidemment, chez moi ou chez le sportif de haut niveau. Et le dopage auquel, éventuellement, j'aurai affaire, sera peut-être moins sophistiqué, mais il sera un peu du même ordre.
Alors, nous, l'image que l'on pourrait se faire des conséquences du dopage, ce n'est peut-être pas forcément la mort subite, dans le sens où ça reste des cas exceptionnels, même si effectivement on ne peut pas le comptabiliser, hein, on ne sait pas encore exactement quelle est la part ou pas du dopage ou du surentraînement, le surmenage. Mais nous, l'image que l'on pourrait avoir du dopage, ça va être peut-être les conséquences physiques avec notamment ces femmes qui font de la natation et qui ont des corps d'hommes. On imagine des transformations physiques, mais pas forcément le surmenage en l'occurrence.
Le dopage qui amène à gommer les signes extérieurs du surmenage, c'est ce dopage qui risque de mener au surentraînement. L'utilisation des amphétamines, l'utilisation des corticoïdes, tout ça ayant pour objectif de masquer tous les signes d'alerte sont redoutables, évidemment. Mais pour revenir à votre question, ne croyez pas ça. Par exemple, des dopages qui utilisent les anabolisants, et notamment les anabolisants stéroïdiens, ou les hormones de croissance, ou la cocaïne, pour prendre un autre exemple. Là, ce n'est pas anabolisant, c'est un excitant, c'est un stimulant. Ce sont des dopages qui ont des effets pervers sur la sphère cardiovasculaire, notamment sur le cœur. Les cardiomyopathies, les hypertrophies pathologiques liées aux anabolisants, liées à l'hormone de croissance, oui, bien sûr. Et ça, ça peut mener à la mort subite. L'utilisation abusive de PO avec des hématocrites élevés, une augmentation de la viscose sanguine, peut favoriser l'apparition d'accidents thromboemboliques. Il y a eu comme ça au début l'utilisation de l'EPO, un certain nombre de sportifs qui sont décédés, j'allais dire dans leur lit, liés à cette utilisation abusive. Tout ça est très lié, d'où l'importance d'avoir des procédures de détection. L'importance des contrôles inopinés, évidemment. Parce que le contrôle inopiné, vraiment inopiné.
Alors justement, les contrôles inopinés, ça représente quel pourcentage dans la totalité des contrôles actuels ? Alors, dans le domaine international et dans le domaine national ?
Alors, dans le domaine international, ça représente... C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Sur le plan national, c'est seulement à partir du 1er octobre que l'agence a en main toute la maîtrise du contrôle.
Oui, vous faites bien de le repréciser.
Mais même avant, il y avait quand même un pourcentage de contrôles inopinés important, à peu près égal à la moitié de l'ensemble des contrôles faits en France.
Donc 50-50.
Oui, même un peu plus, hein. Mais en fait, paradoxalement, les contrôles inopinés ne donnaient pas de meilleurs résultats, presque moins bons que ce que j'ai appelé les programmés. Alors on peut se poser la question sur la pertinence des contrôles inopinés. Alors il faut bien se mettre à la place d'abord des dopeurs pour ça.
Oui.
Les dopeurs, qu'est-ce qu'ils connaissent ? Ils connaissent aussi bien que nous, si ce n'est mieux, la durée de vie des médicaments. C'est-à-dire, quelle est la fenêtre de détection de ces médicaments ? Quelle est la durée de leurs effets ? Qui n'est pas toujours lié à leur durée de vie. Ils savent quels sont les objectifs du sportif. Donc, ils savent pour quel type de compétition il faut préparer. Et tout l'entraînement va être axé sur cette ou ces compétitions. Et donc, tout le dopage va être organisé en vue de ces compétitions. De manière à ce qu'au moment de la compétition, on ne trouve plus rien.
D'où l'idée, en fait, éventuellement, de faire des contrôles avant les compétitions.
À l'entraînement, bien sûr. Mais pas n'importe quand à l'entraînement. Il faut aussi connaître aussi bien que les dopeurs, quels sont les protocoles de dopage. Les protocoles de dopage deviennent de plus en plus fun, surtout chez les sportifs de haut niveau. On a affaire vraiment maintenant à des professionnels du dopage.
Vous êtes déjà tombé sur des feuilles comme ça, avec
réel
protocole de
«
Monsieur Intel devra prendre ses amphétamines à telle heure,
oui,
à telle date ».
On a absolument, oui, bien sûr. Bien sûr, et notamment tous les protocoles qui associent EPO, autotransfusion sont très précis. Et c'est fait de telle manière que lorsque le sujet arrive au moment de la compétition, eh bien, les taux de PO sont extrêmement faibles, voire interrompus. Je parle de l'administration de PO exogène. Il y a un système de prélèvement de sang, séparation des globules et du plasma, conservation des globules et réinjection des globules, mais de façon suffisamment fréquente.
Pour oxygéner le sang ?
Pour augmenter le pouvoir, le transfert d'oxygène par le sang, bien sûr, hein, par le biais de l'hémoglobine, c'est évident. Et à ce moment-là, vous avez par exemple un prélèvement de 1 litre de sang, on conserve les globules, on redonne de l'EPO à l'individu pour qu'il reconstitue son stock de sang. Avant la compétition, on lui remet les globules qui ont été conservés, on lui en retire 500. Ce qui fait qu'on a toujours en stock un stock de globules rouges frais. Ce qui est important, parce que ça veut dire qu'il est extrêmement difficile de faire une détection de ces autotransfusions par le biais du vieillissement des globules.
Oui, oui.
Vous voyez, c'est pas des naïfs qui font ça. C'est pas des naïfs. Alors, tous ces protocoles, on les connaît, de même que les utilisations des stéroïdes anabolisants, les cures de stéroïdes anabolisants, et beaucoup de ceci se fait à l'étranger.
Aux portes de l'Europe, ça reste dans quel...
Aux États-Unis. Oui, bien sûr. En Afrique, au niveau du Maghreb... un peu moins maintenant les pays de l'Est, mais enfin, pourquoi pas. Alors, maintenant, les sportifs de haut niveau sont obligés de donner leur localisation d'entraînement. Ça, c'est l'AMA, et nous-mêmes aussi, on souhaite cet aspect-là.
Mais alors, ça veut dire que ces sportifs, lorsque l'on peut le voir dans l'actualité, disent qu'en fait, c'était réalisé à leur insu. Ça n'est jamais réalisé à leur insu. Ils savent que quand ils vont donner leur sang et qu'il va y avoir comme ça séparation du plasma, des globules, c'est quand même pas anodin.
Oh bah ceux-là, oui, bien sûr, c'est de leur plein gré. C'est clair.
Non, j'aurais pas dû dire à l'insu, mais vous êtes d'accord qu'il y a des coureurs
bien
qui,
sûr,
à chaque fois, sont, mais vraiment, paraissent très étonnés de voir que leur traitement...
Certains peuvent être tout à fait étonnés de voir... Certains, par exemple, qui ont pris des compléments alimentaires en achetant les compléments alimentaires par Internet. Pourtant, Dieu sait, si on les avertit, si on les informe, peuvent se retrouver des compléments alimentaires dans lesquels on va retrouver des pro-hormones, on va retrouver des stéroïdes anabolisants et ils seront positifs. Mais malheureusement, ils sont responsables de ce qu'ils font.
Donc certains peuvent être de bonne foi, entre guillemets.
Oui,
après,
possible.
Certains, je ne sais pas
possible.
Comment
Moi,
ça se quantifie.
Je ne veux pas absolument mettre en doute la bonne foi de tous les sportifs. Mais beaucoup d'entre eux savent très bien.
Quand il faut partir au dehors des frontières françaises pour prendre un traitement.
Là, il n'y a pas de schéma, hein, où quand c'est le mari qui se balade dans sa voiture avec des stocks dans la malle de produits divers et variés. Moi, je veux bien que ce soit pour la belle-mère, mais enfin, ça me surprend un peu. Non, mais je veux dire que c'est. Et on est confronté actuellement à des vrais problèmes aussi de détection.
Je vous propose de marquer une courte pause, Michel Rieu, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission Point de Mire sur le dopage. A tout de suite. Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère. Suite de notre émission Point de Mire sur le dopage en compagnie de Michel Rieu, conseiller scientifique auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD. Alors dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué comment les sportifs adoptaient une conduite dopante, que ce soit pour accroître leur performance ou masquer les effets du surentraînement. Dans cette seconde partie, nous allons parler des méthodes de dépistage. Il semble que vous soyez confronté à quelques problèmes, Michel Rieu.
Mais oui, les problèmes, alors quels sont-ils ces problèmes? Bien sûr, il y a des substances que l'on retrouve sans difficulté. Par exemple, les stéroïdes anabolisants. Bon, il n'y a pas de problème. Mais si, il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes parce que il vous suffit, c'est le problème de la fameuse affaire Balco, de cette espèce d'officine qui avait mise sur le marché, sans autorisation de mise sur le marché, bien sûr, sélectionné un stéroïde anabolisant qui ressemblait à tous les autres stéroïdabolisants, sauf qu'il y avait une toute petite fraction de la molécule qui était modifiée. Ce qui le rendait indécelable dans le screening qui est fait par les laboratoires pour mettre en évidence cette classe de stéroïdes. Il a suffi qu'on sache, sur le plan international, que ce produit existait, on l'a su par dénonciation d'ailleurs, hein, pour que immédiatement un laboratoire spécialisé qui est celui de Cologne fasse la synthèse en 15 jours hein, de cette substance et immédiatement mettre au point le système de détection. Donc maintenant, le dopage par la THG ne peut plus être utilisé, mais il peut y en avoir d'autres. Autrement dit, on ne trouve que ce qu'on cherche.
Voilà. Vous avez toujours un décalage entre les nouvelles techniques et puis bah oui, vous qui intervenez pour détecter.
Ça, une nouvelle technique, c'est vraiment un bien grand mot, hein, disons les supercheries. Voilà. On n'a pas en main toutes les supercheries forcément, puisque par définition une supercherie, c'est née une supercherie que lorsqu'on ne sait pas qu'elle existe. Enfin, qu'on sait qu'elle existe, c'est plus une supercherie. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, alors là c'est qui est beaucoup plus sérieux, c'est un certain nombre de substances elles-mêmes, et notamment des substances de type endocrinienne, si vous voulez, posent problème. Des substances qui ont une demi-vie très très courte, donc qui disparaissent très très vite. Hein, des urines, du sang, notamment par exemple l'hormone de croissance. Sa demi-vie, elle est d'une demi-heure à une heure. Donc ça, elle disparaît très très vite. Du sang, on aura beaucoup de mal à la trouver. Le PO, surtout à dose très faible, comme elle peut être utilisée, a une demi-vie de 24 à 48 heures. Au bout de 72 heures, on aura beaucoup de mal à la trouver parce que ça sera ce qu'on trouvera dans les urines est trop faible pour pouvoir vraiment avoir une étude discriminante. Bon, d'autre part, vous avez aussi des substances dont il est très difficile de distinguer l'origine endogène et exogène. Pour reprendre l'exemple de l'hormone de croissance, actuellement, on n'a pas vraiment les moyens de distinguer l'hormone de croissance naturelle, bien qu'elle ait un certain nombre d'isoformes, de l'hormone de croissance exogène, même si elle ne représente qu'un seul isoforme, parce que on n'a pas la méthode, la technique qui permet de le faire.
Donc, mais alors vous êtes en train de nous dire que vous êtes totalement impuissant ?
Attendez, c'est vrai aussi, par exemple, notre grande crainte aussi, c'est toute l'avancée des neurosciences. Parce que l'avancée des neurosciences, qui met au point des substances de plus en plus discriminantes au niveau des lieux sur lesquels elles vont jouer, c'est-à-dire au niveau des récepteurs, de leurs récepteurs au niveau du système nerveux central, ces substances, alors elles seront vraisemblablement détectables. Encore faut-il qu'on sache lesquelles elles sont. Et des fois, il y a des utilisations de substances qui sont dérivées alors qu'elles sont déjà encore en phase 3. Bon, autre exemple, c'est l'utilisation de la thérapie cellulaire.
Voilà, hein, un autre aspect.
Encore pire, déviation de ce qui pourra être un jour de la thérapie génique.
Alors comment on peut parler de thérapie génique et de thérapie cellulaire dans le domaine du dopage ?
Bah, par exemple, on peut, en utilisant un certain nombre de cellules souches, on sait très bien que maintenant, il y a des méthodes qui, soi-disant, sont faites pour restaurer les tendons, mais en fait, permettront d'accroître, disons, la résistance tendineuse. Or, et par là même de permettre d'augmenter, d'utiliser encore plus les anabolisants pour augmenter la masse musculaire. Parce que quand vous utilisez les anabolisants, le risque, surtout si en plus vous mettez des corticoïdes, le risque, c'est d'avoir un moteur qui augmente, mais la courroie de transmission tendineuse qui, elle, reste fragile. Et à un moment, ça claque. Et surtout, si vous prenez des corticoïdes qui fragilisent les tendons. Si au contraire, vous fortifiez en même temps les tendons, que vous augmentez la masse musculaire, vous gardez un équilibre musculo-tendineux intéressant. Ça, c'est un des exemples. Vous avez aussi...
Mais là, on est dans le domaine du futur ou ça existe déjà ?
Sur le plan thérapeutique, ça commence à exister. Il n'est pas impossible que ça déjà puisse exister sur le plan du dopage.
Et vous avez les moyens, d'incriminer ces méthodes ?
Pas encore.
Vous savez que ça existe ?
C'est pour ça que la recherche est intéressante et doit se dépasser le simple cadre de la détection de la substance. Mm-hmm. C'est vrai aussi pour la thérapie génique. Alors là aussi, il ne faut pas non plus en faire un fonds de commerce, la thérapie génique... chez l'homme, hein, chez l'être humain, elle n'est pas encore tout à fait au point. Ceci dit, des fois, les sportifs, ils sont prêts, certains sportifs de très haut niveau sont prêts à accepter n'importe quoi pour augmenter leur performance, notamment à prendre tous les risques possibles. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des études qui ont été faites d'utilisation de cellules qui ont été, si vous voulez, transformées génétiquement, modifiées génétiquement, pour être amenées à sécréter une substance que normalement N ne sécrète pas par activation des gènes quiescents. Pour prendre un aspect caricatural, une cellule musculaire n'est pas faite pour sécréter de l'EPO. Par contre, c'est vrai. Non mais oui,
mais
elle en, a, elle en a quand même le potentiel formel. Donc si on active le gène quiescent de ces cellules musculaires, elles sont capables de sécréter l'EPO. Et il n'est pas impossible que ce genre de technique, chez le macaque, ça se fait.
Dans les quelques années à suivre, on pourra carrément transformer notre corps en fonction du sport que l'on va faire pour courir de plus en plus vite.
Je ne dis pas du tout qu'on va immédiatement vers des Superman. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut moduler l'activité de telle ou telle part de l'organisme, d'où l'intérêt de trouver maintenant des méthodes qui permettront d'aller au-delà. Alors, c'est pour ça qu'il faut anticiper cette démarche. Alors, anticiper comment ? Notre idée, mais il n'y a pas que nous, hein. C'est effectivement, mais c'est des études qu'on a d'ores et déjà mis en marche et qui sont financées sur le plan international. C'est une étude qui actuellement est en cours, en relation étroite, plus que relation, en convention avec la Fédération française de cyclistes, l'INSERM et l'INRA, pour essayer de mettre au point une méthode qui va tenter de découvrir si on peut obtenir la trace d'un dopage. Je m'explique.
Oui.
Actuellement, on dit qu'il y a dopage lorsqu'on trouve la substance incriminée.
Dans les urines.
Voilà, voilà, vous avez pris, tac, vous avez pris de l'EPO, monsieur. Là, voilà l'EPO. Bon, alors on dit, mais non, votre truc, ça ne marche pas, même si ça marche. Bon, vous êtes puni. Mais bien souvent, on ne trouve rien. Et on est persuadé, pourtant, qu'il y a un dopage. Donc, l'intérêt, maintenant, c'est de rechercher quelle est la trace que laisse l'administration d'une substance ou un procédé interdit dans l'organisme. Il y a toujours une trace. Et cette trace, il faut tenter de la mettre en évidence et d'identifier les paramètres qui, même à distance, permettent de mettre en évidence qu'a été utilisée une substance qui appartient à une famille, j'insiste sur le mot famille, oui, de produits proscrits. Par exemple, la famille des anabolisants. Pas la peine de chercher si c'est tel ou tel ou tel type d'anabolisant qui est utilisé. Par contre, on a la certitude qu'il y a eu un anabolisant qui a été administré. C'est tout le problème. Évidemment, alors, il y a deux problèmes, vous le voyez bien. Il y a d'une part, identifier les paramètres qui constituent en quelque sorte, comme me dit Alain Paris de l'INRA, qui est un peu l'initiative de cette démarche, qui est la signature du dopage, c'est-à-dire de trouver quelle est la trace qui a été laissée par le dopage.
C'est d'associer, par exemple, faire une prise de sang, prendre un cheveu, prendre...
Non, pour le moment, c'est d'utiliser, alors c'est dans la recherche qui est menée, c'est celle-là, d'utiliser un profil biologique à très large spectre, qu'on appelle par exemple un métabonome, et de voir en première approche si ce profil à très large spectre de données biologiques montre des modifications détectables à distance lorsque l'on sait avec certitude qu'une substance a été utilisée. Ça a été fait chez les bovins, justement à l'INRA à Toulouse, qui a été capable de montrer que sur 4 lots de bovins, mâles, femelles, traités par anabolisant, non traités par anabolisant, de mettre en place un nuage de points grâce à cette démarche métabonomique,
oui,
qui sont parfaitement séparés selon qu'on s'adresse à tel ou tel lot de bovins. Et ça, c'est formel. Alors évidemment, chez l'homme, ça sera plus compliqué, chez l'être humain, ça sera plus compliqué, parce que d'abord, le dopage est souvent associé. Les bovins, c'est facile, on leur administre des anabolisants, on sait qu'ils en ont eu.
Voilà.
C'est plus compliqué chez l'être humain. Donc deux techniques difficiles à utiliser. D'abord, c'est ces techniques donc, de métabonomique ou de techniques de transcriptome. Ça, c'est une autre démarche qu'on a mis en place concernant l'EPO. Et derrière ça, un outil statistique extrêmement puissant pour, à partir de ce nuage de données, ressortir les éléments discriminants. C'est toute la démarche. Alors,
avec un coût financier, je suppose, aussi ?
Oui, très cher. Et là, si vous voulez, on va y venir parce que c'est intéressant de voir comment on va engager toute cette démarche. Mais ça veut dire que, dans le cas précis, si on arrive à faire ça, il y a une étape scientifique très complexe, vous voyez, on ne sait pas du jour au lendemain qu'on va le faire. Mais ça peut très bien intéresser le dopage que certains appellent le dopage génétique, ça. Hein, une modification, ça laisse des traces. Il y a toujours des traces. Il faut la trouver, la trace. Et puis alors, deuxième aspect, c'est l'aspect réglementaire. Parce que pour le moment, la réglementation, c'est « Ah, vous avez pris ça, monsieur, vous êtes puni.
Oui. »
Là, c'est plus ça. C'est indirect. Ce sont des marqueurs indirects dans le code mondial.
Mais qui vous permettront quand même de, justement d'incriminer telle ou telle personne.
Oui, bah alors il faut avoir pour ça des éléments scientifiques bétonnés, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vraiment montrer qu'il n'y a pas de faux positif,
prouver, bien sûr.
Et d'un autre côté, il faut que ceux qui font la réglementation acceptent cette notion. Ceci dit, dans le code mondial antidopage, la notion de marqueur indirect existe déjà. Alors, la conclusion, ça peut être, on peut imaginer, soit effectivement une réglementation stricte avec sanctions à l'appui, soit démarche un peu plus hypocrite, mais il y a une anomalie biologique chez ce monsieur. Cette anomalie biologique...
est provoquée
Non, elle n'est pas normale.
Ah, d'accord.
On l'arrête. Prescription médicale. Alors, dans cette démarche, il y a deux aspects. Il y a un aspect longitudinal, c'est-à-dire propre à l'individu. Ça veut dire que l'individu lui-même est son propre témoin, et on voit s'il y a des modifications qui apparaissent. Soit transversal, c'est-à-dire si on montre qu'une famille de substances données donne chez tous les individus une modification du profil telle que cette modification peut être directement affectée à cette substance, à cette famille de substances données. Vous voyez, les deux démarches ne sont pas contradictoires, elles vont l'une avec l'autre.
Oui, mais ces deux méthodes pourraient venir dans les 10 ans, 20 ans à venir.
Bah écoutez, d'abord...
Est-ce qu'elle va se faire peut-être déjà avant aux États-Unis, puisqu'on dit souvent que les États-Unis ont un poil d'avance quand même sur nous.
Non, dans le cas précis, non. Je pense même que là, je ne dirais pas qu'on a forcément beaucoup d'avance, mais enfin, on en a un peu. Le financement international qu'on a eu, qui est quand même conséquent, qui a été donné dans le cadre de cette étude, il est bien la reconnaissance que nous avons là une démarche originale. En fait, cette recherche, c'est un exemple, mais il y en a d'autres qui sont en cours, qui suivent. Au niveau de la FLD, nous avions déjà au niveau des CPLD ce qu'on appelait un groupe prospectif, qui réunit un certain nombre de scientifiques venant d'horizons divers et pas du tout forcément spécialisés dans le domaine du sport ou de l'entraînement, non. Par contre, des scientifiques de très bon niveau. Et nous essayons de faire émerger des idées, que ce soit des idées de recherche. Autrement dit, si vous voulez, ce groupe prospectif pour l'agence, maintenant, il va vraiment devenir le groupe incubateur d'idées. Ces idées de recherche, on va évidemment tenter de les formaliser. D'ailleurs, si des gens ont des idées de recherche, ils viendront les exposer devant ce groupe. Et cette formalisation devant déboucher sur des propositions d'études de faisabilité. Études de faisabilité que nous pourrons financer. Parce qu'en général, elles ne se montrent pas à des niveaux très élevés. Mais ces études de faisabilité, là, elles seront contrôlées. Et disons, le projet lui-même, a priori, sera contrôlé, examiné et validé par les experts qui font partie du comité d'orientation scientifique. Nous avons maintenant un comité d'orientation scientifique au niveau de l'FLD qui est constitué d'une majorité d'étrangers. Et des étrangers qui, pour la plupart, et d'ailleurs des Français aussi, la plupart ont eu des responsabilités, ou encore des responsabilités, dans des sociétés savantes internationales, scientifiques. Président de sociétés européennes, président de sociétés mondiales, de manière à ce que chacun de ces experts ait lui-même à sa disposition un volant d'experts, de plus en plus spécialisés, c'est un effet de zoom, si vous voulez, vers lequel nous pourrons envoyer ces projets d'études de faisabilité, pour les expertiser et pour les rendre au même niveau, si vous voulez, que les demandes qui peuvent arriver de l'étranger, d'ailleurs. Là-dessus, l'étude étant faite, cette première étude de faisabilité étant faite, les résultats seront validés, là encore, par le conseil scientifique, le conseil d'orientation scientifique. Et si cette validation s'avère positive, l'agence pourra labelliser ce projet et le porter vers les instances nationale ou internationale, habilité à donner des crédits de recherche suffisamment conséquents pour mener à bien ce type de démarche qui, évidemment, deviennent à ce moment-là ambitieuses et onéreuses. Voilà notre démarche, si vous voulez, telle que nous sommes en train de la mettre en place.
Donc on l'a bien compris, ça va être de plus en plus difficile dans les années à venir de passer entre les mailles du filet et d'être repéré d'une manière ou d'une autre.
C'est ce que nous voulons, si vous voulez, ce que nous voulons, c'est... en fait, qu'il soit, je parle du sportif de haut niveau, qui, quand il se dope, est un modèle désastreux pour l'ensemble de la population et pour les plus jeunes. Vous voyez, moi je ne suis pas partisan de dire à le sportif de haut niveau, on n'a qu'à le laisser faire. Non, il ne faut pas le laisser faire. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on ne le devient pas par hasard.
Voilà ce que vous disiez dans la première émission.
On est issu d'un monde. Eh bien, on n'éradiquera jamais le dopage. Il y aura toujours des plus finaux, des plus tricheurs, ou qui passeront à travers les mailles. Mais il faut le rendre de plus en plus difficile et de plus en plus onéreux.
Pour repérer les personnes qui se dopent, sera aussi de plus en plus onéreux. Enfin, disons qu'en fait, c'est une évolution des deux côtés.
C'est un problème. C'est vraiment, effectivement, vous avez raison, c'est un vrai problème. Je pense qu'il est dommage que le sport soit amené dans cette espèce d'escalade. Mais cette escalade est un peu essentielle parce que elle est du ressort de la santé publique encore. Il ne s'agit pas seulement que des sportifs de haut niveau. C'est l'ensemble de la population des gens qui font du sport, des jeunes qui veulent faire du sport pour maintenir leur santé, qu'il faut protéger de cette perversion. Si on la banalise, c'est une catastrophe.
Juste pour terminer l'émission, puisque nous avons dépassé un peu le temps, juste pour terminer cette émission, votre avis à vous, Michel Rieu, actuellement, les performances des sportifs de haut niveau, est-ce qu'elles sont toutes valables? Est-ce que vous faites partie des gens qui disent que tous les sportifs de haut niveau se dopent?
Je ne me permettrai pas de dire ça, j'ai absolument aucun élément qui me permette de dire.
Mais est-ce que pour vous, il y a quand même, vous qui connaissez quand même très bien ce milieu, pour vous, certaines performances, par exemple dans le domaine de l'athlétisme, ne sont dues que parce qu'il y a des prises de produits dopants, parce qu'on arrive à des temps tellement surréalistes?
On a l'exemple malheureux de Griffith Joyner, qui, au jeu de Séoul, a été double champion olympique en 100 mètres et 200 mètres, et qui a battu à l'époque des records qui n'ont jamais été égalés ni même approchés. Cette jeune femme a eu un changement qui était très belle, d'ailleurs, a eu un changement de corpulence, de morphologie énorme en 4 ans. On voit les photos, si vous voulez, 4 ans avant, où elle c'était une jeune fille mince et qui est devenue subitement une espèce de petit monstre de muscles, et puis qui est décédée quelques années après d'une pathologie cardiovasculaire. Alors évidemment, on ne peut pas forcément dire que c'est lié au dopage. Mais enfin, dans le monde du sport, les soupçons existent. Hein, et puis ils n'existaient pas, ils existaient bien avant d'ailleurs. Les performances dans le domaine du Tour de France atteignent un niveau tel que bien sûr, et les acquis techniques, bien sûr, les vélos ne sont pas les mêmes qu'à l'époque d'Henri Pélissier ou de Bison Bobé ou de Fausto Coppi. Mais c'est vrai aussi que ces performances laissent planer un doute. Qu'est-ce qui est intéressant en sport? Ce qui n'exclut pas le dopage, d'ailleurs, vous me direz, c'est vrai. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est la performance en tant que telle? Ou est-ce que c'est le fait de se confronter aux autres et de vaincre? Qu'est-ce que ça peut faire de vaincre, de gagner un 100 mètres en 10 secondes de dixième ou de le gagner en 9 secondes 3 centièmes? Quel intérêt, moi, si je veux faire un 100 mètres en 5 secondes, je prends ma voiture ou ma moto? C'est idiot. Autrement dit, vous mettez à l'intérieur de l'individu un système qui gomme l'individu. C'est que vous lui mettez, en fait, un système technologique. Je crois que la dernière fois, je vous avais donné l'exemple du saut à la perche.
Oui, tout à fait.
C'est la même chose. Vous mettez un ressort dans l'individu. Autrement dit, c'est plus l'individu qui gagne, c'est son ressort. Puis en plus, dans le domaine du sport de haut niveau, maintenant, il y a l'aspect financier.
Eh bien, merci Michel Rieu. C'est sur cette note financière que nous allons nous quitter. Donc, je rappelle que vous êtes conseiller scientifique, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, conseiller scientifique auprès de cette nouvelle agence française de lutte contre le dopage qui, auparavant, s'appelait Conseil de prévention de lutte contre le dopage. Un changement de sigle, mais pas seulement. Hein, on l'a vu avec au cours de ces deux émissions qu'il y avait vraiment une prise en main de ces sportifs, que ce soit les enfants, les sportifs de tous les jours ou les sportifs de niveau. Merci d'être venu nous voir. Et puis, je l'espère, à bientôt pour une nouvelle émission, cette fois-ci peut-être sur les AUT. Sait-on jamais.
Là, je crois qu'il faut attendre que le décret sorte.
Alors voilà, nous attendrons la sortie du décret. Les AUT, on peut le rappeler, ce sont les autorisations d'usage thérapeutique, les médicaments que l'on peut
normalement prohiber, mais qu'on peut utiliser dans des cas exceptionnels lorsqu'il y a une vraie pathologie. J'insiste sur le mot vraie pathologie.
Eh bien, merci Michel Rieu et à très vite alors pour une nouvelle émission.
Merci. Au revoir et merci de votre accueil.